débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute du débat sur RFI. Le pape François est en visite en Colombie pour, dit-il, aider le pays à aller de l'avant sur le chemin de la paix. Fin de citation. En Colombie, un accord a finalement été signé l'an dernier entre le gouvernement et les FARC, le principal mouvement d'opposition armée. Un accord obtenu en échange d'amnistie et de sièges pour la hiérarchie des FARC dans les instances politiques du pays. Large impunité donc et faveur qui passe mal auprès d'une partie de la population. Une autre admet que le retour à la paix impose des sacrifices. Alors dans ce pays majoritairement catholique, le pape peut-il être déterminant dans le processus de réconciliation qui s'est engagé? Et la reconversion des FARC peut-elle réussir? On va en parler avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Je vais commencer avec Jean-Jacques Kurlianski, qui est chercheur à l'IRIS en charge de l'Amérique latine et auteur d'un livre qui s'appelle La Colombie de A à Z. C'est aux éditions Versailles à Bruxelles. Bonsoir Jean-Jacques Kurlianski.
Bonsoir.
Et puis Pascal Drouot est lui le président de l'association France-Amérique Latine, LATFRAN, qui est auteur également d'un livre paru il y a quelques années, qui a pour titre FARC, confession d'un guérillero, c'est aux éditions Choiseul. Bonsoir à vous Pascal Drouot.
Bonsoir.
Alors, aider le pays à aller de l'avant sur le chemin de la paix, c'est ce qu'a dit le pape, je l'ai cité en introduction. Qu'est-ce qu'il peut faire véritablement? Il peut avoir une influence, Jean-Jacques Kurlianski, sur le processus engagé en Colombie?
Il faut déjà qu'il arrive à recomposer l'unité de l'Église catholique. Et il ne faut pas oublier que le 2 octobre, le référendum sur la paix qui a été perdu d'ailleurs par le président Santos, le pape avait appelé à voter oui, de faire confiance à la paix, alors que la conférence épiscopale colombienne avait laissé les fidèles catholiques libres de leur vote en leur âme et conscience. Il y a effectivement, dans l'Église colombienne, catholique, un certain nombre de pesanteurs, de résistance, qui l'orientent plutôt vers les courants de pensée les plus conservateurs. Mmh. Et donc, manifestement, le pape est allé, comme il l'avait fait au Mexique d'ailleurs en février l'année dernière, a fait ce voyage en Colombie après donc confirmation des accords de paix par la voie parlementaire pour essayer de convaincre l'épiscopat colombien de jouer le jeu de la paix comme le leur demande le vicaire du Christ.
Mmh. On verra si cette démarche aboutit. Pascal Drouot, pourquoi maintenant, d'après vous? Est-ce que c'est une période particulière du processus qui s'est engagé entre les FARC et le gouvernement?
Alors, en effet, de toute façon, ce voyage, il n'est pas anodin. Il a du sens. Il a du sens à la fois religieux, mais aussi, en effet, politique. Le pape s'est déplacé et est venu en Colombie parce que la paix a été signée. Oui. Ça, c'était une des conditions. Maintenant, ce qui est frappant, c'est que le slogan, je dirais, de la visite du pape, c'est « faire le premier pas ». Ça veut dire quelque chose. Donc c'est vrai que le pape, aujourd'hui, vient dans un pays qui a signé la paix, mais la paix, il va falloir l'appliquer. Et c'est ça le véritable défi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il met tout son poids dans la balance pour dire, aujourd'hui, c'est à nous de faire le premier pas dans la foi. La foi, justement, et c'est tout le secret d'abord de la place de l'Église en Amérique latine, parce qu'elle a joué un rôle tout au long des 30, 40 dernières années, et nous y reviendrons peut-être, et aujourd'hui, et dans la recherche de la paix, l'Église a joué un rôle, évidemment, auprès de Cuba, mais c'est vrai que le pape, aujourd'hui, essaie à la fois de porter ce message dans un contexte très politique, en disant la foi est inscrite et est incarnée dans le processus historique que connaît la Colombie.
Parce que c'est un sacré défi quand même. On rappelle quelques faits. 52 ans de guerre civile, 260 000 morts, 60 000 disparus, plus de 7 millions de déplacés. Le contentieux semble véritablement énorme. Est-ce que pourtant, la réconciliation est en marche, Jean-Jacques Kurlianski?
Il faut voir, les facteurs de violence sont extrêmement nombreux en Colombie. Il n'y a pas que les FARC. Avant les FARC, il y avait eu une phase extrêmement violente de conflit entre les partis traditionnels colombiens qui avaient également fait entre 200 et 300 000 victimes. Les acteurs de ces violences s'étaient retrouvés ensuite engagés dans la bataille d'idéologies différentes des FARC et de l'ELN. Il y a une autre guérilla qui est encore active, même si elle a prononcé un cessez-le-feu provisoire. Et il y a d'autres facteurs de violence qui sont les mêmes que ceux que l'on constate dans d'autres situations en Amérique latine.
Lesquelles, par exemple?
Au Mexique ou en Amérique centrale, bon, qui sont pas du tout politiques, mais qui sont liés
à la justice sociale,
à des facteurs de délinquance, des réseaux liés à des trafics les plus divers, pas simplement les trafics de drogue, trafic de personnes, trafic de matières premières, de toutes sortes de trafics. Et qui sont à l'origine de beaucoup de violences et peut-être même davantage aujourd'hui que ce que peut provoquer ou a pu provoquer les conflits d'ordre idéologique qui sont une queue de comète, la fin des conflits régionaux liés à l'Est-Ouest.
Parce qu'il faut quand même rappeler que il y a certains opposants au président Santos, ce qui ne voit pas d'un très bon œil finalement cette interférence du pape dans le processus. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, certains intégristes par exemple ou les ultra-conservateurs, donc sur le plan politique aussi, ça patine un petit peu, non?
Non, mais bien sûr, bien sûr, et c'est inévitable. D'abord, je dirais, premier point, la Colombie, c'est un pays de contraste. La Colombie, c'est deux fois la France. C'est le cinquième PIB latino-américain. C'est un pays qui compte 48 millions d'habitants, et c'est vrai, vous avez fait allusion à cette réalité sociale, c'est un pays où la moitié de la population vit dans la pauvreté. Voilà, il y a des pôles de développement, des pôles de croissance énormes. La capitale, 10 millions d'habitants, en fait. Un taux de croissance qui repart, il est annoncé à 3% l'année prochaine, et en même temps, en effet, des cœurs de conflit, une rivalité sociale qui est là, qui est latente, qui est permanente, avec des croisements de conflits, Monsieur Koulianski l'a rappelé, et qui sont en effet ancrés dans la société. Mais
alors
c'est inévitable.
On peut y revenir parce que c'est intéressant ce que disait tout à l'heure Jean-Jacques Koulianski, parce qu'on entend dire la paix menace certains intérêts. Lesquels?
Évidemment, la paix menace ses intérêts. Évidemment, parce que la paix suppose un nouvel ordre, tout simplement. Mais si ça marche en Afrique du Sud, si ça marchait en 92 au Salvador, pourquoi ça ne marcherait pas en Colombie? Qu'est-ce que cela pourrait menacer? Cela pourrait menacer ceux qui ont prospéré dans la guerre. Évidemment, cela pourrait menacer les trafics de la drogue. Oui. On connaît parfaitement les croisements, les rencontres qu'il y a eu, notamment avec les FARC, qui sont devenus la FARC depuis quelques jours, et après le congrès qui a transformé le mouvement de guérilla en un parti politique. Donc évidemment que voilà, la paix suppose une nouvelle organisation et de rebattre les cartes. Et donc inévitablement, et je dirais finalement ce que je dis est tout à fait ordinaire, la paix suppose, oui, de bousculer un ordre établi, de bousculer les intérêts.
Et ça va pas être facile, Jean-Jacques Koulianski.
Oui, il y a un autre élément qui a toujours été difficile à régler dans le post-conflit, c'est que faire des combattants, qu'il s'agisse des combattants de la clandestinité, les guérilleros, ou qu'il s'agisse des forces de police ou des forces militaires. Et cette gestion-là, par exemple en Amérique centrale, a été très mal géré. Il y a aujourd'hui davantage de morts par homicide en Amérique centrale, qui ont les taux les plus élevés du monde par nombre d'habitants, qu'il n'y en avait pendant les conflits idéologiques liés aux antagonismes entre l'Est et l'Ouest. Alors, j'ai posé l'année dernière la question à un général au ministère de la Défense en Colombie. Je leur ai dit, mais mon général, donc c'est la paix. Vous allez prendre votre retraite, vous allez vous reconvertir. Il m'a dit, détrompe. Vous, nous avons fait nos calculs, nous considérons que l'activité liée au combat contre les FARC représente 20% de notre travail habituel. Donc il en reste 80%, donc nous n'avons aucune raison d'être préoccupés sur nos dotations budgétaires, sur notre avenir professionnel. Donc, et là on revient à tout ce que je vous disais tout à l'heure sur le panel qui est extrêmement large des facteurs
justement,
de violence
alors,
en Colombie.
C'est la cause de l'origine de ces violences toujours en cours, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, notamment le manque de justice sociale, on pourrait peut-être parler aussi de la corruption. Qu'est-ce qui se fait en ce moment en Colombie pour combattre ces causes?
Alors le post-conflit pose le problème des ressources dont l'État aurait un besoin urgent. Donc le président Santos s'est lancé dans une réforme fiscale qui a été quelque part aussi en partie à l'origine de son échec au référendum. Les adversaires de la réforme fiscale ont greffé leur combat sur celui des accords de paix en disant pourquoi dépenser de l'argent pour des criminels. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est d'autant plus compliqué que si le président Santos est tout à fait convaincu de la nécessité d'avoir à gérer le post-conflit, de disposer de moyens, et il a tapé à la porte de plusieurs organisations internationales. Chacun de ses voyages, il pose le problème à la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale. Malheureusement pour la Colombie, malheureusement pour lui, il n'est pas candidat, il ne peut plus se représenter l'année prochaine, et il n'y a pas au jour d'aujourd'hui de candidats qui puissent être considérés comme véritablement un candidat qui porte le projet de paix de la façon dont l'a porté le président Santos.
Et qui lui a valu le prix Nobel de la paix d'ailleurs.
Pascal
Drouot, alors comment ça se passe sur le terrain, le retour des guerrieros dans la vie civile? Vous suivez ça de près, j'imagine?
Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il faut bien resituer les choses.
Oui.
On parle de post-conflit, on parle de la FARC et des anciens guerrieros, on parle de 7000 hommes et femmes.
Mmh.
Voilà. 7000 hommes et femmes dans l'économie colombienne aujourd'hui, si l'on intéressait les entreprises à exercer un recrutement, c'est 300 entreprises et c'est 25 recrutements par entreprise. Donc c'est tout à fait absorbable.
Oui, voilà. 7000 personnes sur une population importante comme ça,
voilà.
Bien évidemment.
Et c'est le ministre de la Défense qui me donnait, Monsieur Villegas, qui me donnait ces chiffres-là. Mais ça permet de bien ressaisir les choses et de rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Kurlianski. En effet, au niveau du budget, la guerre aujourd'hui ou le combat qui était mené, la lutte qui était menée contre les FARC n'était plus depuis longtemps le premier poste de dépense.
Mais ça, c'est au niveau des soldats de base, on va dire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la hiérarchie, les dirigeants des FARC qui renoncent à la lutte armée, mais manifestement pas la perspective d'accéder au pouvoir.
Et c'est le but.
Oui.
Sauf qu'aujourd'hui, on va rentrer dans la structure de pouvoir par la voie électorale. Mmh. Et c'est ça la transformation des FARC. Donc qu'est-ce qui se passe avec les chefs des FARC? Je pense notamment à Iván Márquez. Eh ben, ils deviennent les leaders de la FARC, de la force alternative révolutionnaire commune, puisque c'est le nom aujourd'hui officiel.
Nouveau nom. L'acronyme reste, mais le nom change. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous d'ailleurs, Jean-Jacques Kurlianski, cette décision?
Ça a été critiqué. Donc évidemment, les adversaires des accords de paix ont dit que c'est quand même assez difficile à accepter que les FARC gardent leur acronyme. Bon, après tout, si on regarde au Salvador, actuellement, il y a un président qui est du FMLN. Le FMLN était un mouvement de guérilla qui s'est reconverti à la vie politique, qui a gagné tout à fait légalement les dernières élections présidentielles, et ça ne pose pas de problème particulier. Donc, la critique est surtout une critique qui vient relayer des critiques qui étaient sur d'autres sujets par des gens qui refusent la légitimité de rechercher la paix.
Mais en même temps, c'est intelligent, c'est du marketing.
Ouais.
Parce qu'au moins tout le monde connaît les FARC, et quand il va falloir voter,
ça permet d'assurer la cohésion du groupe.
C'est vrai que les chefs des FARC, les anciens viennent de rentrer dans le bureau politique, on va dire, de la FARC, qui compte 111 membres. Ouais. Donc Iván Márquez, Pablo Catatumbo notamment, et évidemment Timochenko, Monsieur Londoño, le leader des FARC. Voilà.
Le grand patron.
Ils ont été élus, le grand patron, qu'ils ont été élus donc par les délégués qui étaient présents à Bogota il y a quelques jours.
Alors justement, il y a ce retour à la paix, il y a certaines questions qui restent tout de même en suspens, celle de la justice, par exemple. Il y aura des procès contre les crimes particulièrement graves, et il y aura des réparations si on en croit cet accord, Jean-Jacques Kurlianski.
Oui, mais alors ce qu'il faut bien voir, le débat a été extrêmement difficile en Colombie, comme il l'est toujours dans ce genre de situation, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut prioriser la paix, il faut être assez ouvert et assez flexible en matière de poursuite. Il faut la vérité, mais sans qu'il y ait nécessairement des peines de prison dissuasives qui contraignent les guérilleros à poursuivre leur combat. Regardez ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où il y a eu une commission de la vérité, où la seule exigence qui était imposée aux personnes ayant commis des atteintes aux droits de l'homme, c'était de les reconnaître. Donc ça va un petit peu plus loin en Colombie. C'est vrai que ça ne va pas aussi loin que ça le pourrait ou que ça le devrait, mais si on veut rechercher la réconciliation et la paix, c'est aussi le message du pape, hein, qui finalement joue en faveur de cette justice transitionnelle, parce que il faut privilégier la paix, le pardon et le dialogue.
Oui. Il y a cette phrase d'un proche du président Santos qui m'a interpellé, qui dit la sécurité des guerrieros désarmés constitue le plus grand défi de cette nouvelle étape. Il y a un sentiment de vengeance quand même qui est très présent manifestement.
Non, c'est surtout le résultat de l'expérience. Ouais. Dans les années 80, il y a eu l'Union patriotique, les efforts de recherche de paix ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Ils ont marqué l'histoire de la Colombie de ces dernières décennies. Et dans les années 80, il y a eu des milliers d'assassinats d'ordre politique, d'ailleurs d'anciens candidats présidentiels de l'Union patriotique,
des députés, etc.,
candidats qui ont été assassinés. Donc on n'a pas envie de répéter le même exercice, c'est ça que ça veut dire.
Et qu'est-ce qui est fait pour que ça ne se répète pas? Eh bien, justement,
assurer déjà la sécurité au quotidien, sécurité ciblée sur les personnes qui composent aujourd'hui la FARC, sur les candidats, forcément, mais ça vaudra pour tout le monde. Mmh. On parle du pouvoir central, mais enfin, il ne faut quand même pas oublier non plus que les États, les régions qui composent la Colombie, 1 million de kilomètres carrés, pèsent et sont extrêmement lourds. D'ailleurs, la présence du pape à Medellín, ça a du sens. C'est Antioquia, c'est la terre de Alvaro Uribe, puisque vous parliez de l'opposition, Alvaro Uribe qui est en effet virulent,
l'ancien président
pendant 8 ans qui a mené
un combat à cet accord.
Absolument.
C'est aussi le lieu où s'était constituée la conférence épiscopale latino-américaine. C'est un symbole pour
mais
le pape.
Oui. Et on voit bien que la visite est à la fois politique et,
et religieuse.
Allez, il y a des échéances électorales en 2018, élections législatives en mars, présidentielles en mai. Je crois que les FARC ont dit qu'ils se présentent ne présenterait pas un candidat à la présidentielle, mais législative. Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle politique majeur, Jean-Jacques Kourlianski?
Ça va être un pari. Ils ont des sièges acquis pour deux législatures, mais le pari qu'ont fait les FARC, c'est d'essayer de convaincre les Colombiens, d'une part qu'ils sont engagés dans un processus de paix irréversible, et d'autre part qu'ils sont engagés également dans un processus de changement de la société par la voie des urnes. Mmh. C'est un défi parce que c'est la première fois que les FARC vont dialoguer avec la société. Pendant 53 ans, ils ont vécu dans des endroits extrêmement reculés où ils ne voyaient pas grand monde. Et donc c'est pour eux, c'est un choc, comme pour la population d'ailleurs, ce qui explique que dans les sondages, la cote de popularité des FARC soit très faible. Et ce qui explique qu'ils ne veuillent pas se présenter aux élections présidentielles, parce que le résultat aurait été sans doute assez catastrophique pour le mouvement.
Et puis il y a cette idée, peut-être pour terminer, je vous pose la question, Pascal Drouot. Un facteur, vous semblez intéressé par l'économie du pays particulièrement. On dit que la paix, finalement, est plus rentable que la guerre. Vous pensez qu'il y a un facteur économique important dans ce processus?
Certainement. C'était en effet Juan Manuel Santos, le président, qui l'a bien rappelé pendant sa visite en France. Mais il est évident qu'aujourd'hui, la Colombie va s'engager dans toute une série d'investissements, notamment en matière d'infrastructures, les ports, les routes, l'énergie, la gestion de la croissance urbaine, il faut penser à l'eau, la gestion des déchets. C'est quelque chose d'extrêmement important. La mobilité, quand on connaît les problèmes de mobilité, notamment à Bogota, Medellín a depuis très longtemps réglé ces problèmes-là. Donc oui, il va y avoir toute une série d'investissements qui vont, je pense, soutenir la croissance annoncée à 3%.
Alors on peut y croire à cette réconciliation nationale, Jean-Jacques Kourlianski?
On peut tout faire pour que ça réussisse. C'est le sens, pour revenir au sujet de cette émission, du pari qu'a fait le souverain pontife de venir en Colombie après la signature de ces accords de paix et de participer aujourd'hui à une cérémonie de la réconciliation dans laquelle il a rencontré des victimes, des FARC et les forces armées en vue de diffuser son message de dialogue pour une Colombie réconciliée avec elle-même.
Un processus qui semble donc irréversible. On va attendre les élections quand même de 2018 pour voir comment sera rebattre les cartes politiques. Merci à tous les deux. Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS. Je rappelle le titre de votre bouquin, La Colombie de A à Z aux éditions Versailles. Et Versailles et Pascal Drouot, président de l'association France-Amérique Latine, vous avez écrit FARC, confession d'un guerriero. Merci également Florence Ponce qui a préparé cette émission et Lorenzo Danet qui la réalise. Vous restez à l'écoute. On se retrouve lundi. Bonsoir à toutes. Un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes.